20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir, nous nous glisserons ce soir dans les coulisses de l'Opéra Bastille à la découverte de la nouvelle production de Don Quichotte de Massenet. Je vous emmènerai ainsi dans l'atelier de sculpture où ont été réalisés les superbes chevaux de Don Quichotte, puis dans la loge de son serviteur Sancho Panza, alias Étienne Dupuis. Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite comme tous les mardis pour nous dresser le portrait d'un jeune interprète. Avant cela, quelques notes de piano, quelques extraits d'un nouvel album qui vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Un récital de la pianiste Yuja Wang capté à Vienne en avril 2022. Un programme éclectique, contrasté, voire flamboyant, comme la pianiste aime les concocter, avec la 3e sonate de Scriabine et la 18e de Beethoven, entourée de brèves pages d'Albéniz, Ligeti ou encore du compositeur ukrainien Nikolai Kapustin. Et un récital qui s'achevait avec un véritable feu d'artifice de bis, signé Arturo Márquez, Brahms, Gluck, mais aussi Philip Glass, avec la 6e étude du compositeur américain que Yuja Wang choisit très souvent pour clore ses concerts à travers le monde. La 6e étude de Philip Glass sous les doigts de Yuja Wang, un extrait de ce récital viennois de Yuja Wang qui vient de faire l'objet d'un album chez Deutsche Grammophon.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Un ouvrage peu connu mais fascinant de Massenet à l'affiche de l'Opéra Bastille des vendredis, Don Quichotte, l'un de ses derniers opéras, qui raconte des épisodes de la vie du célèbre héros de Cervantes, accompagné de son fidèle serviteur Sancho Panza. Don Quichotte qui, après avoir chanté une sérénade à Dulcinée, poursuit des brigands pour récupérer le collier de la belle, se bat contre des moulins à vent, mais se voit finalement éconduit et même moqué par la jeune femme. Il sombre alors dans le désespoir avant de mourir. Une production mise en scène par Damiano Micheletto qui nous plonge dans un univers onirique jouant sur les époques des années 50 à nos jours, avec des vidéos mais aussi des effets fantomatiques de personnages qui sortent des murs ou encore des meubles ou d'autres tout de noir vêtus et sans visage. Et puis pour traduire l'esprit chevaleresque, trois chevaux, mais trois chevaux de manège, trois superbes chevaux issus de l'atelier de sculpture de l'Opéra National de Paris, atelier que je suis allée visiter il y a quelques semaines en compagnie de son responsable, Robin God. Alors que venaient de prendre forme ces trois chevaux de tailles différentes, Robin God nous explique justement son travail, guidé par le choix du scénographe de traduire des perspectives.
Il y a encore quelques décennies dans les opéras et les théâtres, la notion de perspective qui apparaît sur scène pour le spectateur, elle était donnée grâce à des toiles qui étaient les unes derrière les autres avec un effet de trompe-l'œil. Aujourd'hui, la sculpture, justement, ça permet de travailler en volume. Et puis, sur ces chevaux, le scénographe a gardé cet effet de perspective. Donc, il a voulu un cheval plus grand au premier plan, un deuxième un peu moins grand au deuxième plan, puis un troisième plus petit au troisième plan. Donc on a une réduction de ce cheval dans l'espace. Nous, en tant que sculpteurs, on a des blocs et des pains de polystyrène. C'est un peu comme des petits morceaux de sucre, sauf qu'ils font 2,50 m de haut par 1,20 m de large et 50 cm de profondeur. Et c'est là-dedans qu'on va travailler et qu'on va attaquer la matière. Donc on parle de taille directe. C'est une technique qui remonte très très loin, puisque même dans l'Égypte ancienne, si vous prenez le scribe accroupi, vous le regardez de pleine face et de plein profil, vous voyez bien qu'il a été taillé dans un bloc. Et du coup, nous on a cette approche aussi. Donc la forme va sortir de ces pains de polystyrène, petit à petit.
Et du coup, combien pèsent par exemple ces deux gros chevaux qui sont à côté de nous?
Alors, ça doit être les plus légers qui existent de toute la race des chevaux, puisque ceux-là, ils vont peser peut-être une dizaine de kilos quand ils sont en polystyrène.
Alors qu'ils sont à taille réelle, hein.
Oui, ils sont à taille réelle et effectivement, ils n'ont pas du tout le même rapport que le vrai cheval. Donc c'est là aussi où nous, on a une part d'interprétation ou de direction artistique, surtout d'interprétation, on va dire. Est-ce que ce cheval, voilà, il doit avoir un rapport imposant sur scène? Est-ce qu'il doit être plus délicat, plus gracile? Est-ce qu'il doit avoir une posture très forte? Est-ce que, par exemple, l'encolure, le port de tête, quelle présence on va lui donner? Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus musclé? Sur celui-ci, par exemple, qui est plus proche de ce que voulait le scénographe, qui est un cheval plus de manège, il a demandé à ce que le poitrail, donc la partie avant du torse, soit plus douce et pas très musclée. Donc ça va donner aussi cette esthétique qu'il faut qu'on arrive à transmettre pour le décor et pour les spectateurs.
Quand vous travaillez, quand vous sculptez, vous avez des photos, des exemples de chevaux en train de sauter?
Oui, ça fait partie aussi de notre discipline en tant que sculpteur, c'est-à-dire qu'on a une approche du dessin. C'est important de dessiner les choses, de prendre des repères sur le papier, de tracer, de voir les proportions, à quelle échelle nous on va les agrandir ou les réduire. Et puis on a tout un travail de documentation par des images, des photos, des livres sur Internet. On va sélectionner, par exemple ici, des chevaux qui nous paraissent plus dans la dynamique du cheval demandé par le scénographe. Donc des chevaux qui sont en position de saut et de galop. Comment aussi donner de la légèreté à un cheval qui saute en opposition à un cheval qui est plus ce que vous voyez par exemple dans les rues aujourd'hui, les sculptures où un cheval très dominant avec un homme de pouvoir dessus, par exemple, et un appui très, très solide.
La romance de Dulcinée du Don Quichotte de Massenet, chantée ici par Marianne Crébassa avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Ben Glasberg. Alors c'est Gaël Arquez qui incarne Dulcinée dans cette nouvelle production de l'Opéra Bastille, mise en scène par Damiano Micheletto, à découvrir du 10 mai au 11 juin. Christian Van Horn chante Don Quichotte et Étienne Dupuis incarne Sancho Panza. Étienne Dupuis qui, à l'issue de la pré-générale samedi soir, s'est confié à mon micro sur ce personnage, sur ce rôle. Un rôle auquel il donne beaucoup de profondeur dans cette production qui nous fait entrer justement dans l'âme, dans la psychologie des personnages, qui évoque leur souffrance et qui évoque l'amitié dans la souffrance.
Ce qui nous a élevés dans la version de Damiano, c'est qu'en ramenant tout à un contexte plus moderne, plus universel, je pense qu'on s'identifie, moi je m'identifie particulièrement au personnage de cette version, plus que celle de la partition, parce que là on n'est plus vraiment dans la chevalerie, on est plutôt chez un aide-soignant, quelqu'un qui prend soin de quelqu'un qui est en train de perdre un peu la raison, et donc pour essayer de rentrer dans son monde, il va dire les choses... justement de la chevalerie errante, tout ça, il va utiliser le même langage, mais toujours maladroitement, ou il essaie de l'amuser, il essaie d'y changer des idées, puis il reste fidèle au poste, même quand Don Quichotte le maltraite un peu, il reste fidèle au poste. C'est assez... c'est très touchant, quoi. Ça, c'est venu nous chercher d'une façon très personnelle, et Christian et moi, et je crois Gaël aussi. On se sent tous appelés.
Et puis il y a beaucoup de poésie, beaucoup de mélancolie et de fantaisie aussi dans cette mise en scène qui nous renvoie dans ces années 50, une ambiance un peu à la Hooper, qui souligne toute l'affection qu'il y a entre ces deux personnages aussi.
C'est juste, on oublie que même s'il y a une relation qui peut être entre deux personnes, au départ d'amitié, éventuellement d'aide, carrément, je rentre vraiment dans le concept du je fais le ménage, le lavage, la nourriture, je fais les courses, et bien on oublie que cet attachement fonctionne des deux côtés. Autant je l'aide, autant il m'apporte quelque chose. Donc on a vécu ces situations, même déjà, celle d'accompagner quelqu'un en fin de vie ou celle d'accompagner quelqu'un qui est en train de perdre la raison où on a connu quelqu'un très près de nous qui a vécu ça. C'est particulièrement difficile, je pense, de ne pas être touché par cette version.
C'est vrai que c'est une œuvre et une version particulièrement émouvante, particulièrement bouleversante, dans votre relation, notamment entre Sancho Panza et Don Quichotte. Déjà, ce sont deux voix de baryton. C'est un opéra de baryton, comme l'était Simon Boccanegra, que vous avez chanté récemment avec Ludovic Tézier. Est-ce que cela donne une saveur, un parfum particulier aussi ?
Forcément. Massenet, il n'a pas écrit cet opéra pour ces voix-là. Sans vouloir créer un précédent ou sans au minimum chercher une ambiance précise. C'est sûr qu'au moment où on m'a offert le rôle, j'ai eu une réaction de me dire « Ah, mais c'est grave !» Parce que moi, j'ai plutôt un baryton qui aime aller vers les aigus. Et là, on me redescend. Là, non, d'ailleurs, on l'entend peut-être dans ma voix qui est plus grave que d'habitude. Et ça m'a ramené un peu à l'intérieur de moi, de la même façon. Je pense que vraiment, Massenet a tapé juste en allant chercher des voix qu'on ne voit jamais à nos extrêmes. On les effleure, on passe tranquillement, mais ce n'est pas un opéra qui se lance dans des bravades héroïques de vocales. C'est plutôt, au contraire, l'aspect touchant intérieur du texte ou du non-texte. Tout est dans la partition. Il y a des trucs qu'on ne dit pas et des trucs qu'on dit, mais d'une façon précise. On est tellement touchés. Et en plus, je sors de scène. Donc forcément, je le vis encore ici, en plein centre. C'est très difficile, je pense, de ne pas être interpellé par ce qu'a fait Massenet et Damiano et de ce qu'on a fait nous. Il faut venir le voir, il faut venir l'entendre, il faut en faire l'expérience.
Alors, ce n'est pas un opéra très connu de Massenet. Vous connaissez bien les opéras de Massenet, Étienne Dupuis, y compris ces opéras rares. Vous avez chanté Thérèse, Hérodiade, et puis une version moins connue de Werther, version pour baryton. Qu'est-ce qui vous touche dans la musique de Massenet, dans les musiques de Massenet? Puisque Massenet, il est très différent d'un opéra à l'autre.
Oui, d'ailleurs, on surnomme parfois le Verdi français, ce qui pour moi est assez juste. Pas parce que c'est comme Verdi, nécessairement, mais il y a un nombre similaire d'opéras. Et aussi, il y a une façon, il y a une évolution très claire dans la façon d'écrire de Massenet. D'ailleurs, je dois dire, je ne suis pas fan nécessairement de tout ce que Massenet a fait. Je ne dis pas fan, c'est-à-dire au plus haut niveau. J'aime pratiquement tout. C'est juste qu'il y a des opéras, il y a des moments dans des opéras où vraiment je pense que c'est la meilleure musique qui a jamais été écrite au monde et d'autres où je suis moins de son époque, quoi. Mais la musique de Massenet évolue, je pense, selon ses histoires, comme Verdi, selon ses personnages. Et il va chercher dans Don Quichotte le côté rétro, le côté, il va y avoir des petits éléments de baroque, des petits éléments de classique, des petits éléments des compositeurs passés. Parce que Don Quichotte est un personnage qui vit dans le passé. Et donc, il se prête au même exercice. Évidemment, il y a des moments où il a pas sa signature. Alors, ce grand duo lyrique magnifique, ça, bah, c'est moi, c'est Jules. Et puis le reste, bah, il y a des influences de Bach. Et dans d'autres de ses opéras, il fait un travail similaire. Il se fie à son histoire et c'est ce qu'il convainc d'écrire ce qu'il écrit.
Étienne Dupuis, accompagné ici par l'orchestre de l'Opéra de Lyon et Daniele Rustioni dans le célèbre air du Werther de Massenet, « Pourquoi me réveiller ?» dans sa version assez rare pour baryton. Étienne Dupuis qui chante donc Sancho Panza dans Don Quichotte à l'Opéra Bastille, un opéra de Massenet composé une vingtaine d'années après Werther en 1910. Un ouvrage dans lequel on perçoit différentes influences, différents styles, et comme s'il y avait plusieurs compositeurs derrière cette partition. Étienne Dupuis nous raconte justement sa perception de cette œuvre de Massenet, de l'évolution du langage du compositeur dans cet opéra relativement tardif.
Pour moi, ce qui change le plus, c'est le côté près des personnages. Comme je disais, on est moins dans l'acrobatie vocale. L'émotion ne vient pas de notes hautes tenues longtemps. Elle vient plutôt d'une sincérité. Et c'est pour moi, c'est ça qui change. C'est que je sais que Massenet se prêtait bien à l'exercice de parler les textes longtemps, en marchant, en essayant d'imaginer sur quel rythme on doit l'écrire pour que ça sonne le plus parlé possible. Et je sais que cet exercice, quand il le fait ici dans Don Quichotte, il l'a gardé simple. Souvent, des petits rythmes staccato, pointés, courts, on parle avec un rythme qui se veut la plupart du temps le plus naturel possible. Moi, pour moi, c'est la grande différence et celle qui permet de jouer le plus vrai possible.
Alors, quel autre opéra de Massenet rêveriez-vous de chanter, Étienne Dupuis?
Alors moi, j'ai fait des scènes, j'ai adoré faire Ariane. J'ai fait des scènes d'Ariane. Bon, c'est pas le plus gros rôle, Pirithous, mais j'avais adoré son air et son premier acte. J'aimerais beaucoup refaire Hérodiade, mais pas en version concert cette fois. J'aimerais refaire le Werther baryton. Mais comme j'avais fait pour un enregistrement et qu'on doit le chanter tous les jours, j'avais pas osé remettre le plus d'aigu, plus de la partition ténor, alors que quand on le fait sur scène, une fois tous les deux ou trois jours, on peut se reposer entre. Peut-être que j'irai un peu plus encore, plus près de ce qu'il avait écrit pour ténor. Et j'aimerais bien, évidemment, en découvrir d'autres. Même des oratorios. Il y a un oratorio que je ne connaissais pas qui s'appelle Adam et Ève. Et c'est pour soprano et baryton. Et comme ma femme est soprano, je me dis, tiens, peut-être qu'on pourrait, on pourrait explorer. Voilà. J'aime beaucoup découvrir les nouvelles œuvres de toute façon.
Et vous connaissez ces mélodies aussi de Massenet.
Alors, j'ai eu l'occasion d'y toucher et d'en entendre et d'en refaire des fois même en concert. Là, il y a eu un CD, mais j'en ai entendu d'autres, j'en ai fait d'autres. J'en ai entendu une dernièrement, je faisais un récital, le Requiem de Fauré, on m'a invité en remplacement de Tassis Christoyanis qui était souffrant, et il y avait une mélodie qui s'appelait le poète et le fantôme, c'était tellement beau, ça m'a ému au plus profond de moi-même, en plus que j'étais dans les répétitions de Don Quichotte et j'avais déjà les émotions en fleur de peau, c'était... Voilà, Massenet c'est quelqu'un qui sait faire vibrer, à tout le moins chez moi, les cordes sensibles.
Alors, ce Don Quichotte de Massenet, c'est, si j'ai bien compté, votre 10e production, Étienne Dupuis, ici à l'Opéra National de Paris. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette maison?
Ah, l'Opéra de Paris, c'est la maison. On s'est installé ici, c'est pas pour rien. C'est une compagnie qui nous fait, nous fait sentir chez nous, mais depuis les tout débuts. Alors moi, avant même de rencontrer ma femme, et quand ma femme est arrivée, elle qui est australienne en plus, et puis elle a appris le français, mais maintenant elle le parle parfaitement. Et donc tous les deux, c'est une maison, à chaque fois qu'on revient, on se dit, mon Dieu, ça nous a manqué. Tout le personnel, mais tout le monde est à une écoute et une aide extraordinaire. Et la direction, là, je dois avouer qu'ils m'ont fait deux beaux cadeaux, un derrière l'autre, avec ce Paolo dans Bocanegra et un cast extraordinaire. Et encore une fois, un cast extraordinaire avec ce Don Quichotte. Et vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux. La 10e, j'espère pas la dernière, mais surtout, j'ai bien hâte d'en refaire des projets comme ceux-là. Dans cette famille, c'est une grande famille, l'Opéra de Paris, qui me manque quand je n'y suis pas.
Étienne Dupuis et sa femme Nicole Carr dans une mélodie de Massenet célébrant les fleurs, accompagnée dans cet enregistrement par l'Orchestre de Chambre de Paris et Hervé Niquet. Étienne Dupuis, qui incarne donc Sancho Panza dans cette nouvelle et très belle production du Don Quichotte de Massenet, à découvrir du 10 mai au 11 juin à l'Opéra Bastille.
Nouvelle génération de Thierry Hillériteau avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir alors.
Ce soir, quatre jeunes Français à qui l'on remettrait volontiers le Molière du Quatuor à cordes.
Bravo alors. Oui, je sens bien là votre acuité, votre sens de l'actualité.
Et c'était hier soir.
Mais,
hein.
Eh bien, exactement. C'était hier soir, la 35e cérémonie des Molières, cette grande messe du théâtre français. Alors nous allons parler ce matin d'un tout jeune quatuor qui n'a pas hésité à emprunter son nom à l'un des personnages chéris de Jean-Baptiste Poquelin, son Elmire, tiré de l'indémodable Tartuffe, pièce toujours ô combien d'actualité. Elmire, c'est, vous le savez, c'est la seconde épouse d'Orgon, celle qui, tout en repoussant les assauts répétés de l'imposteur Tartuffe, tente d'ouvrir les yeux de son mari. C'est chez Molière l'incarnation même de la mesure, de l'équilibre, oscillant toujours entre sagesse et légèreté, de qualité dont nos quatre jeunes du quatuor Elmire donc ont fait philosophie. C'est eux-mêmes qu'ils disent, ils ont choisi en fondant l'ensemble, c'était en 2017, de se placer sous le patronage de ce personnage de théâtre extérieur à la musique. Et bien c'est pour sa fraîcheur, sa légèreté, et puis c'est aussi naturellement pour ce qu'il représente dans la culture française.
Une culture française que ces musiciens vont justement représenter dans une semaine au Festival Vibre à Bordeaux.
Eh bien oui, puisque ce sont eux que le quatuor Modigliani, directeur artistique de la manifestation, a choisi pour représenter la France parmi les jeunes quatuors qui sont résidents cette année au Festival. Ils seront aux côtés de trois autres ensembles venus d'Angleterre, d'Italie et même du Japon. Une belle exposition pour les Elmire qui étaient déjà présents l'an dernier mais qui ont depuis pris du galon. Ils se sont distingués notamment pas plus tard qu'au mois d'octobre dernier en remportant le deuxième prix du prestigieux concours de Genève qui pour sa 77e édition était donc dédié à la fois à la flûte et au quatuor à cordes. Une seconde consécration pour la phalange découverte en 2019 lors du concours Carl Nielsen de Copenhague où il s'était hissé jusqu'à la finale mais qui depuis sa création par d'anciens camarades du Conservatoire de Paris a plusieurs fois changé de visage. Parmi les membres fondateurs, figurez-vous que seul reste Rémi Carlon, le violoncelliste. Ce dernier semble avoir trouvé depuis quelques années, aux côtés d'Hortense Fourier à l'alto, de David Peltric ainsi que Johan Braca au violon, son point d'équilibre.
Et y compris en termes de répertoire, Thierry, entre piliers du quatuor à cordes et esprit de découverte.
Exactement, c'est eux qui le disent, le secret dans cet équilibre à la fois fragile mais tellement beau du quatuor, c'est la passion, effort, patience, régularité sont des ingrédients aussi indispensables qu'incompressibles, mais ceux-ci, assurent-ils, ne doivent pas empêcher un certain grain de folie, une certaine curiosité. Les programmes de leurs prochains concerts sont d'ailleurs à cette image, entre sagesse et légèreté, pour reprendre les traits d'Elmire. Après leur ambitieuse relecture des sept dernières paroles du Christ de Haydn à Bordeaux le 17 mai, on les retrouvera ainsi dès le lendemain au musical de Bagatelle, dans un programme rota et galliano, tout en rythmes endiablés et en légèreté, dans le cadre d'une carte blanche au trompettiste Romain Leleu, qui les verra d'ailleurs côtoyer Jean-Paul Gasparian au piano ou Julien Botan à l'accordéon. Avant de prendre, eh bien, ce sera le mois prochain, la direction du Festival de la Grange de Mêlée qui pour sa 60e édition s'offrira rien moins que l'intégrale des concertos pour piano de Beethoven, mais dans une version transcrite pour quintette à cordes.
Thank you.
Quelques notes d'un quintet à cordes signé Maria Bach, joué par le Quatuor Elmir avec Xavier Philips au violoncelle. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait du Quatuor Elmir et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons très nombreux dans ce studio puisqu'Alexandre Tarot viendra avec trois de ses amis.
Bah oui.
Ils seront trois, ils sont 22 sur le disque, ils seront trois. Momo Kodama, Frédéric Wexniter et un pianiste que l'on découvre, en tout cas qui nous dévoile ses talents de pianiste, c'est Philippe Jarouski.
Excellent.
Philippe Jarouski, le pianiste, non
bien
pas le chanteur.
Et ni le chef.
Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.